au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Moi, j'ai pas connu, mais mon père me l'a dit qu'on traversait la Seine prise complètement par les glaces, hein, une année, en 1895. Mais moi, j'ai connu des immenses glaçons dans la Seine, on le voit plus, ça, maintenant.
Non, depuis une trentaine d'années, là, on a eu des hivers.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le commerce que nous entretenons avec le temps qu'il fait et avec celui qui s'annonce est marqué désormais profondément par les informations immédiates que nous fournissent les nouvelles technologies, informations étendues sur la Terre entière, sans que disparaissent pour autant les rendez-vous réguliers que nous proposent la radio et la télévision. Les techniques qui le permettent s'enracinent loin en arrière, jusqu'au XVIIe siècle pour le moins. Cette histoire mérite assurément l'attention du côté des relations entre les sciences et les modes de vie. Mais son intérêt s'enrichit grandement lorsque la curiosité s'élargit jusqu'aux évolutions des sensibilités collectives. Pascal a bien pu écrire « Le temps et mon humeur ont peu de liaison, j'ai mon brouillard et mon beau temps au-dedans de moi ». Mais en disant cela, il apparaît fort isolé parmi l'immense déroulé de la littérature qui est parcourue de milliers de notations et d'émotions concernant l'influence de la météorologie sur les esprits et sur les âmes, et cela depuis la plus haute antiquité, bien avant que ne s'affine la connaissance des climats et de leurs mutations. C'est à la rencontre de l'histoire des sciences et de l'histoire littéraire, donc social, que va se placer cette émission, comme le font les travaux de mon invité, Anouchka Vazak, maître de conférence à l'université de Poitiers, travaux qui se situent sous le double patronage prestigieux d'Emmanuel Leroy-Ladurie et d'Alain Corbin. Je vous propose d'affronter, avec elle, de siècle en siècle, la pluie, le soleil et le vent.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste. La terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement. ainsi que des esprits errants et sans patrie, qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique. Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Son drapeau noir.
Anouchka Bazac, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert, pour ouvrir notre conversation, le très célèbre poème de Baudelaire, Spleen, interprété ici par Léo Ferré, qui l'a mis en musique en 1967. Nous voilà d'emblée, d'un seul coup, au centre de toute réflexion nécessaire, sous l'angle littéraire ici, et non pas scientifique, mais nous y viendrons, une réflexion nécessaire sur l'entrelac qui s'installe entre le temps qu'il fait et les émotions de l'esprit et de l'âme.
Tout à fait, mais c'est quand même un poème d'une tristesse infinie. Bon, le titre est Spleen. Et donc là, on a vraiment une vision de la météorologie comme... quelque chose qui est enfermé à l'intérieur de soi, qui est, il parle de couvercle, de cerveau, de crâne, et ça n'est pas la porosité qui peut être joyeuse ou plus légère, en tout cas, autant qu'il fait, qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres poèmes de Baudelaire.
Et chez d'autres auteurs, puisque vous souhaitez que nous contrebalancions le caractère affligé, triste, morose de ce magnifique poème, alors je peux vous lire Diderot. Diderot qui, dans sa lettre sur les sourds et muets, écrivait ceci « Je suis porté à croire que tout ce que nous avons vu, connu, entendu, aperçu, jusqu'aux arbres d'une longue forêt, que dis-je, jusqu'à la disposition des branches, à la forme des feuilles et à la variété des couleurs, des verts et des lumières, jusqu'à l'aspect des grains de sable du rivage de la mer, aux inégalités de la surface des flots, soit agités par un souffle léger, soit écumeux, et soulevé par les vents et la tempête, jusqu'à la multitude des voix humaines, des cris des animaux et des bruits physiques, à la mélodie et à l'harmonie de tous les airs, de toutes les pièces de musique, de tous les concerts que nous avons entendus, et voici la chute, tout cela existe en nous, à notre insu. »
Oui, alors Diderot, c'est presque un siècle plus tôt, et pourtant il y a déjà les débuts justement de cette alternance entre l'intérieur et l'extérieur, de ce va-et-vient entre le monde et le sujet. Et Diderot est un des premiers à avoir perçu l'importance du temps qu'il fait pour le sujet. Et on le voit dans ses salons, par exemple, lorsqu'il décrit certains tableaux de tempête en particulier. Mais c'est aussi un type d'écriture qui est très ouvert, qui a à voir avec le dialogue. Diderot, c'est un écrivain du dialogue.
La météorologie. On ne pense pas toujours que le mot est directement lié à la météore.
Il y a une longue histoire du mot météore et des météores. Alors, l'origine, c'est Aristote, dans ce volume qui s'appelle Les Météorologiques ou Météorologica.
Nous sommes ici dans le lieu de la longue histoire.
Très bien. Et donc, les météores, c'est les choses de l'air. Alors, ça veut dire ce qui est en haut, en suspens, mais chez Aristote, la météorologie recouvre des disciplines qu'on appellerait aujourd'hui géologie, hydrologie, etc. Donc pas uniquement l'histoire des météores, c'est-à-dire des choses de l'air.
Donc l'idée de météorologie à l'époque est déjà lourde de cette ambiguïté étymologique, parce qu'elle se fonde d'un côté dans une confusion assez significative avec l'astrologie,
voilà.
Et de l'autre, elle est un discours qui cherche, comme vous le dites, son assise humaine et terrestre.
Tout à fait. Et puis, en fait, pendant longtemps, on a défini les météores comme des mixtes imparfaits qui, contrairement à d'autres corps, n'étaient attachés ni, enfin, n'étaient issus ni exactement de l'eau, de l'air ou de la terre, et qui étaient dans un monde intermédiaire entre le monde céleste et le monde qui est le nôtre, le monde terrestre. Et cette définition mixte imparfait, on va la retrouver encore à la Renaissance et pratiquement jusqu'à l'encyclopédie de Diderot, qui est pourtant le premier ouvrage à faire une entrée, à consacrer une entrée au mot météorologie, science des choses de l'air.
Aristote n'est pas le seul à parler du climat et du lien qui s'installe entre l'évolution des atmosphères et d'autre part la vie des hommes. On trouve déjà dans Hésiode, les travaux et les jours, avec des descriptions géographiques qui parlent du climat dans Hérodote. Et puis, c'est intéressant, beaucoup de choses chez Hippocrate. Dès ce moment-là, il y a un lien entre la santé des hommes. Hippocrate, c'est un des deux grands père fondateur de la médecine, avec Galien, de la médecine occidentale, il y a déjà cette idée qui est destinée à prospérer longtemps, d'une relation intime entre la santé des hommes et l'atmosphère alentour.
Ça va se prolonger au moins jusqu'au XVIIIe siècle, hein, et je me demande si on n'y revient pas d'ailleurs, hein, de nos jours.
En quoi on y reviendrait aujourd'hui ?
Bien, quand on parle des allergies, de la sensibilité quand même, bon, autant qu'il fait, c'est aussi un discours médical, à mon avis, qui n'est pas très éloigné de celui d'Hippocrate et puis de toute cette tradition de météorologie médicale qu'on a avec la Société de médecine jusqu'au XVIIIe siècle, Société royale de médecine, et les travaux de Vic d'Azyr, par exemple.
En somme, cette cosmologie aristotélicienne va dominer le paysage intellectuel jusqu'à la révolution copernicienne.
Oui, au moins, oui, bien sûr.
Et même au-delà.
Oui, même au-delà. Je pense qu'on en a encore des rémanences, justement, dans l'encyclopédie et au XVIIIe siècle. Alors là, ça vient plutôt de la Bible, mais il est fait allusion à des pluies de cendres, de sang, des choses qui nous paraissent évidemment complètement irrationnelles, et tout ça vient de la plus haute antiquité.
Et puis bien sûr, on s'étonnerait que nous n'évoquions pas la théorie des climats de Montesquieu. Le mot de climat, lui aussi, mérite qu'on s'y attarde un instant, car il y a eu un phénomène de synecdoque, non ? Vous allez nous expliquer ça.
Alors le climat, au départ, c'est une zone qui est parallèle à l'équateur, et donc le globe terrestre était divisé en un certain nombre de climats, et c'est vraiment un lieu, un espace. Et puis petit à petit, et ça c'est plutôt vers le XVIIIe siècle que cette modification sémantique se produit, le climat vient à désigner la température de l'air de ce lieu donné. Et puis progressivement, ça désigne la température de l'air. Donc il prend un sens plus aérien au fil de l'histoire, ce mot climat, au point qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'entend plus le sens local, sinon pour parler du climat de la planète. Mais il ne s'agit plus du tout de zone terrestre.
Rappelez-nous ce qu'a été la théorie des climats de Montesquieu.
Alors la théorie des climats de Montesquieu, qu'il n'a jamais revendiquée sous ce titre-là, c'est une partie de l'Esprit des lois de 1748, dans laquelle il fait un lien entre justement ces zones terrestres et les lames des peuples et surtout leur type de gouvernement. Alors il considère par exemple, et c'est évidemment on y entend nous des connotations parfois raciste, hein, qu'il y a un lien entre, par exemple, le climat, ce qu'il appelle du Midi, puisque c'était une des grandes zones voilà, climatique, si vous voulez, il y aurait un lien entre les climats du Midi et puis la propension à la tyrannie, par exemple. Voilà. Et les peuples, la zone tempérée, au contraire, produirait comme naturellement des gouvernements de type tempéré.
Donc, défense et illustration de la tempérance, du tempéré.
Tout à fait, il y a un lien entre la tempérance, c'est-à-dire la modération en quelque sorte, et le climat dit tempéré. On nous a bien appris, nous, dans notre jeunesse, que la France avait un climat tempéré, ni trop chaud, ni trop froid, idéal, paraît-il.
Vous avez bien lu les manuels de Demangeon, de Perpillou et de quelques autres, c'est ça que nous utilisions à l'école.
Je ne me souviens plus de ces auteurs-là, mais je me souviens très bien du bonheur qu'on nous disait qu'il y avait à être français, c'est-à-dire dans un climat tempéré.
Cette idée des avantages du climat tempéré qui serait le seul favorable à l'épanouissement de la vie, on le retrouve aussi chez Buffon, le grand Buffon qui écrit « L'apparition des premières sociétés suppose les hommes actifs dans un climat heureux, sous un ciel pur pour l'observer, sur une terre féconde pour la cultiver, dans une contrée privilégiée, à l'abri des inondations, éloignée des volcans, plus élevée et par conséquent plus anciennement tempérée que les autres. Or, toutes ces conditions, toutes ces circonstances se sont trouvées réunies dans le centre du continent de l'Asie, probablement l'extrême de l'Asie que constitue l'Europe, depuis le 40e degré de latitude jusqu'au 55e. Cela explique aussi pourquoi, dans ce monde de climat tempéré, on est tellement frappé quand survient l'exception de tremblements de terre, de drames. Nous évoquions dans une émission précédente le tremblement de terre de Lisbonne, les catastrophes de ce type. Mais ici, il s'agit plus directement des ouragans. Et vous avez, Anouchka Vazak, porté une attention spécifique sur un grand orage qui est survenu un an tout juste avant la prise de la Bastille, les 12 et 13 juillet 1788. Et qui mérite d'être considéré, comme vous le faites, parce que il a donné naissance à toutes sortes de réflexions un peu métaphoriques, l'orage de 88, l'orage révolutionnaire, et aussi à des observations sur d'éventuelles causalités qui méritent qu'on s'y attarde. Est-ce que cet orage aurait contribué à causer, à faciliter les émotions, l'irruption de la révolution en tant que telle un an plus tard?
Alors, c'est vrai que ce qui m'a intéressé dans cet orage, c'est cette date, 13 juillet 1788, un an et un jour avant la prise de la Bastille. Alors, c'est un orage qui est en effet remarquable, notamment parce que il a donné lieu à plusieurs mémoires de l'Académie des sciences et à la... Enfin, on a élaboré la première carte d'orage, c'est Buach, un célèbre cartographe, et cette carte, elle passe pour être la première carte d'orage en histoire des sciences. C'est un orage qui a eu des conséquences importantes, on parle d'un certain nombre de paroisses grêlées, qui a suscité beaucoup de commentaires, qui a amené le roi à en faire lui-même d'ailleurs, mais... Il y a eu des orages bien pires. L'intérêt de cet orage, c'est vraiment sa date, du point de vue symbolique, je dirais.
Rétrospectivement, parce que...
Mais exactement, on ne peut en parler que rétrospectivement. Et là, on est dans l'illusion rétrospective que dénonçait François Furet. Donc, il ne faut peut-être pas travailler comme ça en histoire, mais...
Le finalisme, l'idée que ce qui est arrivé était forcément destiné à arriver, ce qui est toujours une illusion.
François Furet met au contraire l'accent sur l'aléatoire de l'événement révolutionnaire, l'événement peut-être en général, mais après coup, on peut tout de même s'intéresser à ces textes qui dressent un état des lieux, évoquent tout simplement, qui racontent cet orage parce qu'ils utilisent un lexique, disons, et des images extrêmement violentes qu'on va retrouver cette fois après coup, si le coup est la révolution de 89. La révolution de 89 et métaphorisée elle-même comme un orage, d'ailleurs peut-être plus que comme une tempête. La métaphore de la tempête viendra plutôt après coup avec Chateaubriand. L'orage, c'est plutôt sur le moment.
Quelle est la différence entre orage et tempête? Chateaubriand, il y a le texte fameux de René, « Levez-vous donc, orage,
oui,
désiré ».
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi, dans l'essai sur les révolutions de 1797, un texte où il parle de la Révolution française comme d'une tempête.
Chateaubriand,
je parle de Chateaubriand. La différence entre orage et tempête, c'est que l'orage est un phénomène ponctuel, largement imprévisible, et c'est encore quand même plus ou moins le cas aujourd'hui, même si Météo France a fait d'énormes progrès. L'orage reste quand même très difficile à prévoir et notamment à localiser.
On a vu cela en particulier dans le cas du fameux orage de décembre 1999 qui a beaucoup marqué les esprits, qui a ravagé notamment.
Mais c'est une tempête précisément. Voilà, et cette tempête, on aurait dû pouvoir la prévoir. Elle a été d'ailleurs plus ou moins prévue par Météo France, mais il y a eu toute une polémique autour de la prévision peut-être insuffisante de cette tempête, en fait ces tempêtes de décembre 1999.
Notamment à Versailles, je le disais, mais aussi à Rouen, où la cathédrale a subi de graves blessures qu'évoque Monseigneur Duval, l'archevêque de Rouen, dans l'intersoir le 26 décembre 1999.
Une tornade vers 7h10, 7h15, qui a emporté le clocheton nord-est, un de ces quatre clochetons qui entourent la flèche de la cathédrale. Et le clocheton a été projeté sur le toit côté sud. Il a crevé le toit, défoncé la toiture et la voûte. Et c'est tombé dans le cœur de la cathédrale. Ça fait des dégâts importants parce que ça fait quand même un trou assez vaste. Et dans le cœur de la cathédrale, on a l'impression de retrouver ce qui était en 1944 après les bombardements. Un peu comme une bande, on entendait ronfler, venir en ronflant cette tornade. Et donc le clocheton a été emporté. Mais il fallait que ça souffle très fort pour le transporter de l'autre côté, du versant nord au versant sud. Ce sont plusieurs tonnes de pierres qui sont tombées dans le cœur de la cathédrale, qui ont éclaté un peu partout dans le sanctuaire, dans le cœur. Il faut ajouter à ces pierres le clocheton lui-même qui est tombé en partie dans le chœur, plus les poutraisons qui ont été emportées avec. Il faudra vérifier l'état de la voûte autour du trou pour savoir si la voûte n'a pas été trop ébranlée.
Spontanément, l'archevêque de Rouen compare ce qui est arrivé à des drames provoqués par l'homme, des bombardements.
Oui.
Et il parle aussi de tornade, c'est encore un troisième mot.
Oui, alors moi je ne suis pas climatologue, mais la tornade c'est un phénomène effectivement très ponctuel. Hein, et ça n'est pas comme la tempête. La tempête c'est un phénomène prévisible et qui a une certaine, distance, qui se déploie dans l'espace et dans le temps.
Vous n'êtes pas climatologue, mais néanmoins vous avez beaucoup étudié l'évolution de la science météorologique qui progresse beaucoup au 19e siècle. Et on voit parallèlement, plus encore qu'auparavant, on voit se rencontrer l'évolution, notamment romantique, des relations entre la littérature et le climat, et d'autre part les progrès qui sont constants dès le 18e et qui s'affirment au 19e siècle dans la connaissance de ce qui se passe, la complexité des mouvements naturels des airs et sur la capacité qui peut être celle des hommes à le prévoir. On assiste à différentes étapes de progrès assez rapides, notamment liées au télégraphe.
Oui, alors là, on pourrait parler de la tempête qu'on appelle la tempête de Le Verrier, qui est à l'origine de la constitution de prévisions météorologiques scientifiques. Ça, ce sont les travaux de Fabien Locher. Et voilà, c'est pendant la guerre de Crimée.
Oui, Fabien Locher qui a publié un livre important qui s'appelle « Le savant et la tempête », nous y sommes, « Étudier l'atmosphère et prévoir le temps au 19e siècle ». Il y a là une maîtrise de la prévision chez les savants qui est très importante et qui progresse vite. Une cartographie aussi de la météorologie qui annonce celle que nous voyons à la télévision régulièrement, que nous entendons à la radio. Vous parlez d'Urbain Le Verrier. Il a joué un rôle important, de fait.
Oui, Urbain Le Verrier, mais avant lui, on pourrait parler aussi de ce personnage qui m'a beaucoup intéressée, qui est Lamarck. Lamarck est aussi un fondateur, d'une certaine façon, de la météorologie, de la science météorologique, même s'il a été extrêmement critiqué, parce que pour lui, l'influence de la Lune était prépondérante.
C'était pour d'autres, c'était le Soleil.
Voilà, mais lui, dans ses annuaires Lamarck, dans ses annuaires météorologiques, met l'accent sur l'influence de la Lune, et ça lui a valu quelques ennuis avec Napoléon, qui considérait que ça n'était pas sérieux. On raconte une scène, une rencontre entre Napoléon et Lamarck, où Lamarck aurait fondu en larmes parce que Napoléon a refusé ou a pris avec dédain le volume, qui était pourtant un volume très sérieux, hein, de la philosophie zoologique, je crois, de Lamarck. Ça doit être en 1809. Hein. Et Napoléon lui dit, c'est encore votre affreux Mathieu Landsberg. Mathieu Landsberg, c'était un chanoine liégeois qui faisait de la prédiction, pas du tout de la prévision météorologique. Et Lamarck, à l'époque, était taxé un petit peu de mysticisme à cause de son intérêt pour l'influence de la Lune, croyait-il, dans l'évolution du temps qu'il fait.
Il se considère en tout cas, non sans quelque autosatisfaction, comme le fondateur de la météorologie, malgré ses larmes devant l'empereur. Observe qu'il n'est pas admissible qu'on puisse penser que les lois de la nature soient sans puissance sur cette nature même et que tout ce qui s'y passe soit indépendant. Il écrit, on ne peut pas concevoir que les mouvements, que les changements, que les phénomènes qui s'y exécutent soient sans coordination quelconque. C'est cette coordination que la météorologie va s'efforcer depuis là de saisir, et qui va lui permettre de dominer l'immédiateté des observations et de prévoir ce qui est au cœur évidemment de l'ambition de la météo. En un mot, que l'insubordination et le désordre soient le propre de cette enveloppe fluide de notre Terre. C'est ce qui lui paraît impossible à concevoir. À Paris, un individu, c'est lui-même apparemment, dont le goût pour l'observation s'étend à tout ce qu'il peut apercevoir, n'a pas pu admettre cette dernière pensée. Et c'est vrai que si tout était possible et que tout arrivait dans l'atmosphère, dans l'air et partout sans lien entre les différents phénomènes, alors la météorologie devrait s'arrêter aussitôt de prétendre à fonctionner.
En fait, l'existence des réseaux météorologiques est bien antérieure au XIXe siècle, puisqu'on en a dès le XVIIIe siècle, par exemple à Mannheim. Et puis il y a aussi le réseau du Père Cotte. Donc c'est la fin du XVIIIe siècle. Hein, Père Cotte, qui est l'auteur d'un traité de météorologie, où il définit aussi la météorologie.
C'est un adversaire de Lamarck.
Oui, oui. En fait, non, c'est pas. On pourrait pas dire ça exactement, un adversaire de Lamarck, mais disons que dans l'histoire des sciences, il est un peu trop méconnu dans l'histoire de la météorologie.
Jusqu'à ce matin.
Le Père Cotte. En fait, c'est vrai qu'avec Lamarck, on est au début d'une météorologie de type statistique qui va se mettre en place progressivement. Et là, c'est quand même déjà le premier quart du 19e siècle.
Il y a aussi l'exploration verticale de l'atmosphère grâce aux montgolfières.
Oui, alors là, c'est à partir de 1783, c'est sûr qu'il y a, un lien entre ces expériences-là, les expériences sur l'air, etc., bien sûr, Lavoisier, voilà, tout ça est lié, bien entendu. Mais Lamarck m'avait intéressée aussi à cause de sa classification des nuages, qui est oubliée par l'histoire des sciences et... Bon, moi, j'ai toujours envie de lui rendre justice à Lamarck.
C'est là aussi qu'on aperçoit votre personnage, sur qui vous jetez une lumière en vérité inédite pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire Luke Howard.
Voilà. Alors, la même année 1802, Lamarck et Luke Howard, sans se connaître, sans communiquer jamais, ont conçu une classification des nuages.
Des deux côtés de la Manche.
Des deux côtés de la Manche. Et là, c'est intéressant justement pour voir à quel point la météorologie est à la frontière, comme ça, de la, disons, l'innovation météorologique comme science est à la frontière entre le XVIIIe siècle et les travaux, par exemple, de Linné, la classification, et la prise en considération tout à fait nouvelle de ce que Lamarck d'ailleurs appelle par ailleurs les fluides, qui est ces objets insaisissables que sont les nuages. Je crois qu'en fait, Luke Howard cite Shakespeare quand il dit que les nuages, ce sont des airy nothings, des riens aériens. Et là, c'est tout à fait nouveau. Et donc, disons, faire une classification des nuages sur le modèle des classifications de Linné en histoire naturelle, c'est une véritable gageure. Et c'est ce que s'essaye à faire Lamarck et Luke Howard. Mais c'est la classification de Luke Howard qui va l'emporter en 1803. Et c'est encore la nôtre aujourd'hui. Les cirrus, cumulus, stratus, ce sont des mots inventés ou plutôt empruntés par Luke Howard, qui viennent du latin, parce que à l'époque, le latin, disait-il, était une langue directement compréhensible, comme transparente à la communauté scientifique.
Vous avez réédité ce livre exceptionnel de Luke Howard.
Sur les modifications des nuages, oui, on the modifications of clouds. Mais j'ai quand même mis en annexe la classification des nuages de Lamarck,
parce qu'elle est très.
J'aime beaucoup Lamarck et cette classification est très très poétique. Il parle de nuages en balayure, de nuages diablotins, demi-terminés, corrodés, ce que ne fait pas Luke Howard, qui est bien que ce soit un personnage très singulier aussi, hein, c'est un Quaker qui a un côté aussi assez rêveur. Luke Howard est beaucoup plus rationnel dans sa classification, très certainement.
Il peut apparaître comme paradoxal de vouloir fixer l'indéfinissable, le mobile, tout ce qui bouge constamment. C'est un des traits, d'ailleurs, qui nous conduit directement à la littérature, puisque Goethe s'est passionné pour l'œuvre de Luke Howard.
Il lui a écrit, ils se sont écrits en fait. Hein. Luke Howard a écrit une lettre autobiographique qu'il a envoyée à Goethe. Et Goethe lui-même a écrit un texte qui s'appelle « La forme des nuages » selon Howard, où il salue la mémoire de Luke Howard.
Oui, Goethe salue effectivement l'homme qui sut distinguer les nuages, dit-il, de la façon suivante, traduit de l'allemand. Assurément, il définit l'indéfinissable, il le limite, il le nomme avec pertinence. Loué soit ton nom. Bel hommage. En voyant la nuée s'élever, s'amonceler, se disperser, tomber, que le monde se souvienne de toi avec gratitude. Rien que cela.
Oui, c'est un très très beau texte. Et Goethe a écrit aussi un journal de voyage dans lequel il décrit les nuages, d'après la terminologie de Howard. Il a aussi invité les peintres d'Allemagne du Nord à peindre des nuages d'après Howard. Certains ont accepté, comme Carus par exemple, et d'autres ont refusé, comme Caspar David Friedrich, qui est l'auteur de ce fameux tableau tout à fait symbolique du romantisme, qui est le voyageur au-dessus de la mer des nuages. Et pour Friedrich, il était impensable de représenter des nuages en se fondant sur la classification de Howard, parce que ce serait, disait-il, la mort de la peinture de paysage.
On est là à l'aube du siècle qui va progressivement installer la météorologie scientifique avec des conséquences très, très concrètes, hein, en particulier en se fondant sur les câbles télégraphiques et sur des enquêtes aussi. C'est le siècle de la statistique, le 19e siècle, celui où on s'efforce de rassembler le plus d'informations possibles. On retrouve notre ami Le Verrier. Je vais vous faire entendre un bref extrait de son rapport sur l'organisation de l'Observatoire impérial de Paris, 1854, qui est lu ici par Philippe Lodenbach dans la Marche des sciences sur France Culture. On était le 7 avril 2011.
De tous les établissements scientifiques que possède l'État, les observatoires de Paris et de Marseille sont les seuls où il soit fait des observations météorologiques de manière constante. À Marseille, on observe 6 fois par jour. À Paris, on n'avait jamais observé que 4 fois par jour, à 9h du matin, midi, 3h et 9h du soir. Depuis le mois de novembre dernier, nous avons ajouté des observations à 6h du soir et à minuit. Il faut le dire cependant, la nation française a l'esprit éminemment scientifique. Et de louables efforts sont faits dans nos départements par quelques particuliers qui s'efforcent de suppléer par leur zèle à l'insuffisance des établissements de l'État.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Urbain Le Verrier était directeur de l'Observatoire de Paris et il s'est appuyé sur une analyse de la tempête du 14 novembre 1854 qui avait détruit une grande partie de la flotte franco-anglo-turque lors de la guerre de Crimée et qui a convaincu de ce fait Napoléon III. Ses relations ont été meilleures que celles de Lamarck avec Napoléon Ier, convaincu Napoléon III de créer un service météorologique destiné à avertir les marins de l'arrivée des tempêtes. Et il organise ce réseau de stations qui communiquent leurs mesures par le télégraphe électrique qu'on vient d'inventer. Étape décisive en termes techniques et qui a des conséquences, bien sûr, politiques et littéraires.
Absolument, mais là encore, ce sont c'est surtout les travaux de Fabien Locher qui montrent bien justement ce qu'on voit dans l'extrait que vous nous avez fait entendre, également l'importance des ce qu'il appelle les particuliers, c'est-à-dire des amateurs, hein, souvent, qui existent encore aujourd'hui, qui consignent de façon très très régulière la température, la pression, etc. Et ce réseau d'amateurs est essentiel aussi à la constitution de cette science météorologique et à son aspect de réseau.
Amateurs qui sont parfois convoqués avec autorité, puisqu'on met au travail les écoles normales, primaires, en demandant qu'elles fournissent des observations météorologiques à partir de 1865, à l'époque de Victor Duruy, ministre fameux de l'instruction publique. Et ce réseau est complété par l'organisation, on est toujours sous le Second Empire, du recueil des observations d'orages dans chaque canton. C'est vraiment le temps du renouveau de la quête statistique qui avait déjà marqué le XVIIIe siècle. Et c'est aussi au même moment, 1863, que l'Observatoire de Paris entreprend de diffuser régulièrement des télégrammes d'avertissement au port. Là, c'est une coupure majeure, une rupture importante avec la simple observation assez passive. On veut s'efforcer désormais de faciliter la vie des marins pour éviter les naufrages qui ont tellement frappé les générations antérieures.
Alors, cette histoire est très liée à l'histoire militaire aussi, hein, puisque ça va évidemment se prolonger, c'est encore au moins jusqu'au débarquement, jusqu'à aujourd'hui, mais je pensais à la constitution de ce BCM, Bureau Central Météorologique, pendant la guerre de 14, qui a eu une importance considérable. Mais on pourrait dire aussi que là, c'est l'aspect éminemment scientifique, est lié également au travail militaire. Mais on pourrait dire que dans le même temps, moitié 19e et bien au-delà, il y a encore concurrence d'un discours un peu magique, en fait, sur les météores. Le mot est ancien, je l'emploie toujours dans son sens un peu littéraire, métaphorique. Mais on a par exemple ce personnage de Camille Flammarion, qui notamment dans Les Caprices de la foudre rapporte des phénomènes liés à la foudre qui nous paraissent complètement sidérants, si je puis dire, qui ont l'air de venir d'une autre époque, hein, de personnes foudroyées, comme si c'était un effet vraiment diabolique.
Personnage fort intéressant, Camille Flammarion, géographe et en effet de la Terre.
Journaliste aussi.
Journaliste et qui est monté lui-même dans des ballons.
Voilà.
Et qui nous intéresse précisément parce qu'il est à la jonction entre la période qu'on peut appeler peut-être romantique ou pré-scientifique et le contemporain.
Alors il y a d'autres personnages qui sont beaucoup moins connus. Là je pense à un peintre qui a peint des aquarelles météorologiques pendant la guerre de 14, qui s'appelle André Desgachons. Ce sont des aquarelles merveilleuses qu'on commence à redécouvrir grâce à Météo France et aux travaux par exemple de Martine Tabot, climatologue. Et c'est vraiment un peintre, un aquarelliste qui était affilié au BCM, au Bureau Central Météorologique, mais ces aquarelles météorologiques n'ont jamais été utilisées directement pour la prévision. Mais elles demeurent et ce sont des petites merveilles.
Nous parlions de la littérature, il faut que nous revenions, il est inévitable, à Baudelaire, qui est peut-être celui de tous nos plus grands poètes, qui a le plus donné à ressentir cette liaison intime entre le climat et les sensibilités. Alain Corbin, que j'évoquais tout à l'heure, y a toujours beaucoup insisté, ce qu'on peut appeler le moi météorologique. Nous avons entendu le fameux poème Spleen chanté par Ferré au début de cette émission. Voici un poème en prose de Baudelaire, Le Gâteau, 1869, qui est lu ici par Jean de Sailly dans l'émission Bonne Nouvelle, Grand Comédien. C'était du temps de l'ORTF, le 19 avril 1972, une émission qui était produite par Patrice Galbeau. Je serai curieux d'entendre ensuite, Anouchka Vaza, votre commentaire littéraire et historique.
Le gâteau. Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j'étais placé était d'une grandeur et d'une noblesse irrésistibles. Il en passa sans doute en ce moment quelque chose dans mon âme. Mes pensées voltigeaient avec une légèreté égale à celle de l'atmosphère. Les passions vulgaires telles que la haine et l'amour profane m'apparaissaient maintenant aussi éloignées que les nuées qui défilaient au fond des abîmes sous mes pieds. Mon âme me semblait aussi vaste et aussi pure que la coupole du ciel dont j'étais enveloppé. Le souvenir des choses terrestres n'arrivait à mon cœur qu'affaibli et diminué, comme le son de la clochette des bestiaux imperceptibles qui paissaient loin, bien loin, sur le versant d'une autre montagne. Sur le petit lac immobile, noir de son immense profondeur, passait quelquefois l'ombre d'un nuage, comme le reflet du manteau d'un géant aérien volant à travers le ciel. Et je me souviens que cette sensation solennelle et rare, causée par un grand mouvement parfaitement silencieux, me remplissait d'une joie mêlée de peur. Bref, je me sentais, grâce à l'enthousiasmante beauté dont j'étais environné, en parfaite paix avec moi-même et avec l'univers. Je crois même que, dans ma parfaite béatitude et dans mon total oubli de tout le mal terrestre, j'en étais venu à ne plus trouver si ridicule les journaux qui prétendent que l'homme est né bon.
Anouchka Vaza.
Là, ce poème que lu merveilleusement par Jean de Sailly est un peu l'inverse du spleen hein, de 1857. C'est un poème en prose. Et là, il est question de joie mêlée de peur et aussi de paix. Et on a quand même une espèce de bonheur de l'abandon au météore. C'est nouveau, ça, tout de même. C'est le mois météorologique, mais dans ce que peut avoir de plus heureux, cette porosité au monde. Et dans le même poème, lu par De Sailly, il est question aussi de la nuée qui est au pied du poète. Ça m'évoque vraiment le tableau de Friedrich, le voyageur au-dessus de la mer de nuages. Et c'est un tableau tout de même éminemment rêveur, mais aussi où on devine une sorte d'exaltation. C'est le sublime romantique. Mais pour juste un mot sur Rousseau.
S'il vous plaît.
C'est peut-être Rousseau qui est à l'origine de ce qu'on a pu appeler le moi météorologique, puisque dès les confessions, il dit, non c'est dans les rêveries du promeneur solitaire en fait, il dit « j'appliquerai le baromètre à mon âme ». L'idée est de faire une espèce de d'état des lieux de ses sentiments, avec cette certitude que le moi est météorologique, c'est-à-dire variable, hein, pas uniquement soumis au temps qu'il fait, mais sujet à la variation, c'est-à-dire pas tout d'une pièce. C'est vraiment quelque chose de romantique. Je ne sais pas si on peut dire pré-romantique, c'est un adjectif que les littéraires n'aiment pas trop. Mais en tout cas, cette origine, elle se trouve certainement chez Rousseau.
Nouvelle Héloïse, même chose.
Tout à fait. Nouvelle Héloïse, vous avez aussi dans la Nouvelle Héloïse des textes où Saint-Preux décrit les montagnes à ses pieds. Et là encore, on a l'impression de voir une préfiguration du tableau de Friedrich.
Vous évoquez le baromètre. C'est le XVIIIe siècle qui invente le baromètre, élément fondateur de la météorologie moderne.
Ah oui, le baromètre, c'est... moi, ce qui m'intéresse, surtout les baromètres de l'âme, mais c'est vrai que le baromètre est un instrument essentiel avec le thermomètre qui est plus ancien.
On va les transporter d'ailleurs dans les montgolfières pour voir l'effet que peut avoir l'élévation dans les cieux sur la pression de cette atmosphère.
On pourrait aussi évoquer ce personnage de Saussure, Horace Bénédicte de Saussure, qui est allé, qui a écrit un voyage dans les Alpes, qui est allé sur le Mont Blanc.
Un des premiers à gravir le Mont Blanc.
Un des premiers à gravir le Mont Blanc et qui a lui-même fait des expériences météorologiques avec des instruments et qui a même essayé de relever des échantillons de ciel. Alors, je me souviens plus comment ça fonctionnait, mais il avait établi une espèce d'échantillonnage des couleurs du ciel et il demandait dans la vallée si ça correspondait à ce qu'on voyait au pied du Mont Blanc.
Contemporain de Rousseau, on trouve Bernardin de Saint-Pierre qui montre que l'orage est particulièrement émouvant et lourd et important pour la littérature lorsque il survient sur les mers, c'est-à-dire qu'il vient provoquer des naufrages. Et c'est là qu'on rencontre l'immortel roman Paul et Virginie, où on se souvient que Il s'agit d'un amour très pur à l'île Maurice entre ces deux enfants séparés par la méchanceté des hommes et qui sont sur le point de se retrouver lorsque Virginie vient être engloutie par les flots sur le vaisseau qui s'appelle le Saint-Gérant. Je vais vous faire entendre un extrait de Paul et Virginie.
La mer paraissait confondue avec le ciel. Ils s'en détachaient sans cesse des nuages d'une forme horrible qui traversaient le zénith avec la vitesse des oiseaux. Dans les balancements du vaisseau, ce qu'on craignait arriva. Les câbles de son avant rompirent. Alors, ce ne fut qu'un cri de douleur parmi les témoins qui se trouvaient impuissants sur la côte. Paul, qui était là, voulut s'élancer.
Il faut que j'aille la secourir, ou que je meure.
Et il s'élança. Il fut presque déchiqueté par les récifs. Cependant, sur le Saint-Gérant, l'équipage se précipitait à la mer, sur des planches, des vergues, des tonneaux. On vit alors une chose digne d'une éternelle pitié. Une jeune demoiselle apparut dans la galerie de la poupe, tendant les bras vers celui qui faisait tant d'efforts pour la joindre. C'était Virginie. Elle avait reconnu son amant à son intrépidité. Elle nous faisait signe de la main, comme nous disons un éternel adieu.
C'est Robert Arnault qui lisait cet extrait de Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre dans son émission « Histoires possibles et impossibles ». Nous étions sur France Inter le 13 mai 2001. On pourra lire la suite, si on le veut, le moment où un marin se met nu pour emporter la jeune fille vers le rivage et celle-ci refuse de se déshabiller et sa pudeur est pour elle mortelle.
Paul et Virginie, ce sont deux enfants de la nature et qui ont vécu toujours en harmonie avec la nature, sans aucune, justement, pudeur, qui est un sentiment né de la société.
Mais elle a acquis, en revenant sur le
voilà,
France, la pudeur. Oui.
Le malheur, c'est quand Virginie est allée chez sa tante en France et qu'elle a appris les bonnes manières et la pudeur. Et c'est le début de la catastrophe. En fait, déjà les prémices de la... Des émois de la puberté annonçaient d'autres orages, hein, les orages des passions. Il y a vraiment toute une métaphorique là aussi, hein, de la passion amoureuse et l'orage réel. Hein. Mais il faut quand même rappeler que Bernardin lui-même, qui était un grand voyageur, qui a été à l'île Maurice, s'est très très bien renseigné sur cet ouragan qui est tout à fait... réel, qui est historique, qui est avéré, l'ouragan qu'il décrit. Donc il y a une information météorologique aussi à l'origine de ce texte, qui est pourtant un morceau de bravoure, un morceau de choix de la littérature française.
Je voudrais, Anouchka Vazak, que nous concluions cette conversation en nous portant vers le XXe siècle. Tout en gardant l'axe qui est le nôtre, les relations entre la création artistique et littéraire et l'évolution scientifique. On est à un moment où on s'aperçoit qu'il s'agit d'un rare domaine, non seulement technique, mais scientifique, qui est constamment soumis à l'appréciation de l'opinion publique, jour après jour, ce qui lui donne un caractère très particulier.
Il y a un philosophe allemand, Peter Sloterdijk, qui dit que nous sommes instaurés ou auto-instaurés en juges climatiques. Nous avons chacun, alors c'est aussi à l'aide de nos smartphones et appareils modernes, nous avons chacun un point de vue sur le temps qu'il fait. Nous sommes de mieux en mieux informés, mais nous avons aussi notre propre jugement. Et je trouve d'ailleurs que l'information météorologique est de plus en plus partagée. On dit des choses de plus en plus exact, même si on est très vite dans le catastrophisme et que dès que le temps est un petit peu mauvais, on l'attribue au réchauffement climatique. Hein. Mais le réchauffement climatique a été déjà théorisé en fait au XVIIIe siècle. Hein. Il y a une longue histoire de l'idée de changement climatique.
La remonte à qui, à quand?
Alors on peut parler par exemple des travaux d'un académicien belge qui s'appelle Augustin Théodore Mann, qui dans les Mémoires sur les Grandes Gelées, qui ont été réédités par Muriel Collard, parle de réchauffement climatique, mais alors son explication n'est pas du tout la nôtre, qui est le réchauffement de type anthropique. Celle de Mann, c'est le feu intérieur, le calorique, qui se consumerait, et en se consumant, il libère de la chaleur. En tout cas, au XVIIIe siècle, la hantise qui prévalait, c'était celle plutôt du froid. C'est-à-dire que Buffon, en particulier, dont on a parlé tout à l'heure, pensait que la Terre se refroidissait et qu'on allait vers une glaciation progressive. Ça, c'est dans les époques de la nature. Il y a vraiment une hantise du froid qu'on essaye de combattre, d'ailleurs, par la déforestation qui a pu justifier aussi des entreprises de type colonial, en fait, hein, aussi bien en Nouvelle-France que dans d'autres pays.
La déforestation peut permettre de combattre cela ?
Alors, la déforestation, enfin, le fait de supprimer des arbres permet de réchauffer le climat ou de l'assainir. Et alors, c'est à visée médicale, mais aussi agricole, en fait.
Là, on est exactement aux antipodes de cette analyse et de cette réflexion, aujourd'hui.
Ben oui, effectivement. C'est tout à fait le contraire, puisqu'on est au contraire très soucieux de conserver les arbres, la forêt, et notamment le poumon amazonien.
En France, c'est un symbole. Au fond, la direction de la météorologie nationale, toujours un peu difficile à prononcer, laisse la place en 1993 à Météo France, ce qui est une manière d'assurer plus de proximité entre le grand public et la science des climats et de la prévision du temps.
Oui, Météo France a pris une importance considérable dans notre quotidien et en même temps est en première ligne pour, très très vite accusé en fait de négligence et sans prémunis, par exemple avec les cartes de vigilance orange, vigilance orage et vigilance orange, qui, je crois, sont issues justement de la critique qui lui avait été faite au moment de la tempête de 99. Maintenant, au contraire, on est très très prudent, Météo France est extrêmement prudent.
En 99, on avait en effet annoncé des vents très violents, mais sans analyser à l'avance le caractère presque dramatique d'un certain nombre de conséquences pour la végétation. On pense aux ravages du parc de Versailles en particulier.
Mais les ravages du parc de Versailles avaient cet aspect symbolique. On avait déjà dans les textes sur le mémoire l'orage du 13 juillet 1788.
Et comme historienne de la littérature, Anouchka Vaza, est-ce que vous considérez que l'évolution du temps qu'il fait, de la météo, continue d'être importante dans la littérature. J'observe que François Sagan avait intitulé un de ses romans « Les merveilleux nuages ». C'est un titre emprunté à Baudelaire. Pour une troisième fois, on a le goût de vous faire entendre Baudelaire. C'est le premier poème, je crois, des poèmes en prose de 1869, « L'étranger ». Qu'aimes-tu le mieux, homme énigmatique ? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or, je le hais comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Les merveilleux nuages, roman de François Sagan.
Que la littérature accueille le temps qu'il fait encore aujourd'hui, c'est évident. Bon, là, je serais tentée de renvoyer à un ouvrage qui s'appelle « La pluie et le beau temps dans la littérature française », dirigé par Karine Decker et Olivier Leplâtre. Et on pourrait aussi évoquer un livre assez récent de Stéphane Audguy, « La théorie des nuages », où il met en scène justement le personnage de Luke Howard.
Et bien, nous allons clore notre propos en vous proposant, ce n'est pas la littérature, mais c'est la chanson dont il s'agit. Nous l'aimons beaucoup à Concordance des temps. Les Frères Jacques, Il fait beau, 1975. «
le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris filent aux chambres entre-à-ciel, aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la muette à Pigalle, on se l'est répété, une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau.
Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotone et charmant.
Il fait beau, tout le monde est content. Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut, en fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud. Ça s'aggrave d'heure en heure, bientôt nous étouffons.
On a un petit peu d'air quand il passe un avion.
Il fait chaud. Les femmes sont adorables. Comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissus, tant de choses à toucher. Il fait chaud. Il fait chaud.
Partout dans les bistrots, on prépare les grands verres. On a beau être content, on se fait monter de la bière.
Il fait chaud. Faut jamais s'en faire. Délaissant avant l'heure son torride bureau, l'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt. Il fait chaud. Il a trouvé sa femme seule avec un monsieur.
À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux.
Il fait chaud.
Gaston restait sans voix.
Sa femme ne disait rien.
Alors l'autre type a dit,
y a comme ça qu'on est bien. Il fait chaud.
Vous croyez, dit Gaston,
je peux vous l'affirmer.
Gaston s'est dévêtu
et tout s'est arrangé. Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Puis enfin c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction. Il fait bon. Dans le ciel assombri, les hirondelles font en poussant des petits cris une partie de saute-moucheron. Il fait bon. Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud. Là, le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup. Il fait doux. Il fait doux.
Il a pas de temps à perdre, s'il veut être revenu demain, on compte sur lui de bonne heure là-bas derrière Pantin.
Il fera beau.
Il fera beau.
Il fera beau. Ça nous plaira bien.
Vous connaissiez, Anouchka Vazak, cette chanson des frères Jacques ?
Oui, je la connaissais, mais j'ai eu grand plaisir à l'entendre à nouveau. Il me semble qu'elle est un peu l'antithèse du poème de Baudelaire, le premier, le spleen. Là, il y a vraiment un abandon au temps qu'il fait. Il y a un plaisir du temps qu'il fait, de la chaleur. Et il y a quelque chose à la fois de très joyeux et d'un peu nostalgique, je trouve, dans la mélodie. Et je pense toujours que le temps qu'il fait est lié à l'enfance, cet intérêt pour le temps qu'il fait, les étés de notre enfance, les hivers de notre enfance. Il y a vraiment une poésie du temps qu'il fait. C'est là-dessus que j'aimerais conclure, en fait.
On ne peut pas rêver une conclusion plus harmonieuse. Je rappelle, Anouchka Vazak, que votre livre majeur s'appelle « Météorologie ». Il y a eu Aristote, et maintenant il y a vous. « Discours sur le ciel et le climat, des lumières au romantisme », paru chez Honoré Champion en 2007. Vous avez également participé à un livre organisé par le grand Alain Corbin sur la pluie, le vent et...
« La pluie, le soleil et le vent, une histoire de la sensibilité au temps qu'il fait ».
Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, vous le savez, avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger, podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la Manche comme frontière à l'occasion du Brexit. 16e, 18e siècle, avec Renaud Morieux qui enseigne à Oxford mais qui nous parlera en français. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Guillaume Cotte et Nathalie Lempereur, réalisée aujourd'hui par Delphine Lemaire, avec à la prise de son Olivier Arnay et YouTube Diego Aclopès, à la discothèque Nathalie Rouvillain.
et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Brulant. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.